Merci de votre exposé très, très stimulant qui nous pose des questions intéressantes. Je voudrais développer avec vous un certain nombre de points. D'abord, concernant l'histoire du modèle suisse, l'histoire du référendum en Suisse. Car on peut dire qu'il y a eu deux grands moments du regard des démocraties européennes et américaines sur la Suisse. Si on considère le moment des révolutions françaises et américaines, à ce moment-là, le modèle suisse est considéré comme le signe d'un archaïsme politique. Le modèle, je dirais, des petits cantons est assimilé, au fond, à une politique ancienne qui est une politique de l'unanimité. Alors que il y a eu, on peut dire, un moment suisse des démocraties occidentales autour de 1890. Autour de 1890, c'est le moment où se multiplient en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, de très nombreux ouvrages sur le modèle suisse, à ce moment-là assimilé à une forme de démocratie directe considérée comme un progrès par rapport à la démocratie représentative. Mais la question que pose ce changement de regard sur la Suisse qu'il y a eu historiquement, c'est qu'il est vrai que l'origine des votations populaires est tout de même liée à la pratique d'assemblée qui exprimait d'une manière ou d'une autre un sentiment commun, qui n'est pas du tout lié à l'expression d'opinions concurrentes. Et qu'au fond, la Suisse était un double laboratoire. La Suisse était le laboratoire de la proportionnelle et le laboratoire du référendum. Mais ça renvoie à des choses très différentes. Quand la Suisse est le laboratoire de la proportionnelle, c'est la Suisse qui vient de paraître ces jours-ci, d'ailleurs, de votre collègue de l'Université de Genève, un livre d'Olivier Christin, qui a pour titre « Vox Populi », Olivier Christin, que nous avions invité ici au collège, et il a bien montré le rôle fondamental qu'avait joué l'introduction de la proportionnelle en Suisse pour gérer les conflits religieux. Donc, la Suisse, à la fois le modèle de la proportionnelle et à la fois du modèle référendaire, mais ils ont des fonctions extrêmement différentes. Et est-ce que on ne peut pas dire que le référendum est contre la proportionnelle d'un certain point de vue? Quel regard portez-vous sur cette histoire où le passage au pluralisme, disons, change complètement le sens du référendum? Le référendum, il est, et on le verra dans la séance consacrée à l'histoire du référendum en Italie et des plébiscites en Italie, tels qu'ils ont été mis en place par Bonaparte dans les républiques sœurs. Et à ce moment-là, les plébiscites mis en place dans l'Italie par Bonaparte sont vraiment des plébiscites à l'ancienne, c'est-à-dire l'expression d'une collectivité unie, et c'était également aussi le cas des plébiscites de rattachement. Là, on a un modèle historique du référendum qui est un modèle de l'expression de l'unanimité sociale. Et peu à peu, on évolue vers des sociétés plus pluraliste, dans lequel c'est donc non plus l'expression d'une unanimité, mais l'expression, au contraire, là pourrait-on dire, d'une pluralité. Et dans ce cas-là, le processus roi d'expression de la pluralité, c'est la proportionnelle. Donc comment dans l'histoire suisse y a-t-il ce rapport à ce lien complexe entre l'idée proportionnaliste et l'idée référendaire?
Alors, je vous remercie pour votre question. Si vous permettez, je la traiterai en deux temps. Dans un premier temps, avec quelques éléments historiques sur la genèse, l'origine et la genèse des mécanismes référendaires. Et dans un deuxième temps, sur le rapport avec le principe proportionnel. Alors, on pense souvent que s'il existe en Suisse des mécanismes référendaires, cela se situe dans la tradition du régime d'assemblée de type Landsgemeinde. C'est d'ailleurs en ayant en tête cette origine que On fait la distinction entre la participation de type Landsgemeinde, qui serait une forme de démocratie directe, et la participation sous forme de référendum, qui serait une sorte de la démocratie semi-directe. Alors, sans doute, y a-t-il des liens de filiation? Par exemple, les instruments de démocratie référendaire actuels sont beaucoup plus développés dans les cantons qui connaissaient des traditions de Landsgemeinde. Mais je crois que ce n'est pas l'élément décisif. En Suisse, donc il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. Je rappelle que la Constitution de 1848 était pour l'essentiel une constitution représentative. Représentative. Ce qui s'est passé, c'est que les cantons ont commencé à mettre en place des mécanismes de démocratie directe. C'était dans les années 1830. Et ça faisait partie, on appelle ça le mouvement de régénération des cantons, ça faisait partie du mouvement libéral qui s'étendait dans une bonne partie de l'Europe et qui a aussi pénétré dans les cantons suisses. Et ce qui est intéressant, c'est que les partisans de l'introduction de mécanismes référendaires ne faisaient pas référence à la démocratie de type Landsgemeinde, mais plutôt à une pensée politique de type rousseauiste. Donc une pensée qui, par ailleurs, qui a inspiré une partie des phénomènes révolutionnaires. Donc, en quelque sorte, la démocratie directe a été réimportée en Suisse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui remet en question cette idée de la continuité, c'est que face à l'existence d'une démocratie représentative, alors cette fois-ci dans une époque ultérieure, dans la deuxième partie du XIXe siècle, il a fallu arracher aux autorités politiques des mécanismes d'opposition de type initiative et référendum. Et on s'est d'ailleurs posé la question... pourquoi est-ce que les dirigeants politiques de l'époque ont consenti à mettre en place des mécanismes référendaires qui pouvaient limiter leur pouvoir? La principale conclusion, c'est qu'ils étaient trop faibles pour s'y opposer. Je relativiserai l'idée de la continuité avec une démocratie de type Landsgemeinde, dans laquelle, d'ailleurs, il n'y a pas toujours l'idée d'unanimité. C'est très clair que dans une participation sous forme de Landsgemeinde, il y a une pression sociale à l'unanimité, mais ça ne fonctionne pas toujours et ça n'a pas toujours fonctionné. La deuxième partie de votre question concerne le rapport à la, disons, à la démocratie, à la mise en place de mécanismes de représentation proportionnelle, tout ceci faisant partie du système de concordance, de négociation consociatif suisse. Les mécanismes proportionnels, il a fallu aussi les introduire à l'arraché dans le système politique suisse, et ils ont été introduits grâce à l'existence de mécanismes de démocratie directe. Il a fallu 3 initiatives populaires pour imposer l'élection de la première chambre du Conseil national au scrutin proportionnel. Jusqu'en 1919, la majorité du Conseil, c'est une image très différente de la Suisse que celle que nous avons actuellement, jusqu'en 1919, le Conseil national, la majorité absolue au Conseil national était aux mains des libéraux radicaux, qui étaient les vainqueurs de la guerre civile qui a précédé la mise en place de la Constitution fédérale de 1848. Et le gouvernement fédéral était monocolore. Il n'y avait que des ministres libéraux radicaux. Donc, La proportionnalité a été introduite par le biais de la démocratie directe. Alors après se pose la question que j'ai essayé d'esquisser dans mon intervention du couplage entre les mécanismes référendaires qui sont des mécanismes très clairement majoritaires et un système de répartition, diffusion du pouvoir qui relève d'une, en tout cas en partie, d'une logique proportionnelle. Alors je dirais que l'incorporation des mécanismes référendaires dans un système de négociation a fini par tempérer leurs effets majoritaires.
Donc, là, je ne faisais pas seulement référence à l'histoire récente de la proportionnelle, mais à l'histoire ancienne de la proportionnelle au moment des guerres de religion.
Hein,
c'est cela qu'avait...
Alors, il y a un certain nombre d'auteurs. Par exemple, Gerhard Lehmbruch, qui a comparé les systèmes politiques des régions germanophones, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, dont la thèse, c'est que si ces mécanismes de répartition de pouvoir fonctionnent dans un pays comme la Suisse, c'est parce qu'il y a une tradition de règlement des conflits plus ou moins à l'amiable qui remonte aux guerres de religion. Je crois que c'est une thèse qui est intéressante, qui est probablement correcte, en tout cas en partie, dont la faiblesse est de passer sous silence des événements conflictuels majeurs qui ont conduit à la création du système fédéral suisse tel qu'on le connaît actuellement. Il ne faut pas oublier que la Constitution, donc la Suisse, on parle de confédération suisse, mais la Suisse n'est plus une confédération, c'est un État fédéral, comme l'Allemagne, par exemple, ou les États-Unis. L'État fédéral suisse a été mis en place en 1848 suite à une guerre civile. La guerre civile, principalement, entre cantons catholiques et cantons protestants. Donc, lorsque l'État fédéral a été mis en place, ce n'était pas du tout dans la continuité d'une situation de règlement à l'amiable du conflit, mais c'était dans une situation dans laquelle il y avait eu une guerre civile. Et si on essaye de lire les mécanismes de gestion du conflit par ce nouvel État fédéral dans la deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, certains diront qu'on a retrouvé les traditions de compromis, par exemple en instaurant ce mécanisme de la double majorité qui visait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il visait à protéger la minorité catholique qui était concentrée dans les petits cantons, ce qui pose la question de son adéquation ou utilité actuelle. Mais de l'autre côté, si vous regardez l'historiographie plutôt catholique, eh bien, les catholiques se plaignent de leur marginalisation tout au long du XIXe siècle. Certes, le fédéralisme leur a permis de conserver le pouvoir dans les cantons dans lesquels ils étaient dominants, mais ils n'étaient absolument pas représentés au sein des sphères de décision fédérale jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le premier conseiller fédéral ministre conservateur catholique qui a fait partie du gouvernement fédéral, c'est en 1891. Presque un demi-siècle après la constitution de l'État fédéral, et c'était 1/7.
D'accord. Une autre série de questions là, pour rentrer davantage dans le vif du sujet. Sur la formulation des questions soumises à référendum d'initiative populaire. Car ce qui est frappant, c'est de voir que le contenu normatif de ces questions est extrêmement différent. Il est évident que si l'on dit pour la suppression des minarets, on les accepte, on les supprime. Si on dit qu'on est pour ou contre le service militaire, on le supprime ou on l'accepte. Mais si on dit qu'on est pour la limitation des hauts revenus, effectivement, alors là, il y a toute une entreprise de précision normative qui doit suivre. Et je voudrais savoir deux choses. D'abord, quelle est la réflexion historique qu'il y a eu, justement, sur cette question du contenu normatif des questions.
D'accord.
parce que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Vous avez vous-même bien montré qu'après le vote récent là, de la loi sur l'immigration de masse, tout d'un coup, il y a la découverte qu'il y a des conséquences normatives à gérer absolument considérables. Or, que si ça n'a pas du tout la même signification de prendre une décision et que d'entrer dans une question. Parce qu'on peut dire que le référendum sur les minarets, il prend une décision, alors que le référendum sur l'immigration de masse ou les hauts revenus, il fait entrer dans une question, mais il ne prend pas une décision à proprement parler. Alors, quel est l'état des discussions sur cette question-là? Parce que ça peut faire intervenir, justement, la question du contrôle préventif. Comme vous le savez, oui. Cette question du contrôle préventif est posée dans de nombreux pays. En France, en 2008, il y a eu, en même temps qu'on a mis en place l'initiative, la possibilité de référendum d'initiative populaire, il y a un contrôle préventif extrêmement sévère, mais il y a deux dimensions du contrôle préventif. Il peut y avoir un contrôle préventif prudentiel et il peut y avoir un contrôle préventif justement tenant à la définition normative du contenu normatif des questions.
Très bien, je vous remercie. Donc, peut-être, si j'ai bien compris, votre question porte uniquement sur le mécanisme de l'initiative populaire. En cas de référendum obligatoire ou facultatif, il s'agit de projets, propositions de révision constitutionnelle ou législative qui sont préparés par le gouvernement et le Parlement. Alors, comme il n'y a pas de limitation dans le contenu matériel d'une initiative, si ce n'est quand même, c'en est une, le respect principalement de l'unité de la matière. Et il y a eu quelques débats à propos de certaines initiatives sur la question du respect de l'unité de la matière. Il est même arrivé, le Parlement peut le faire, que mais fort peu d'initiatives aient été invalidées par le Parlement en raison du non-respect de l'unité de la matière. Mais dans l'ensemble, je dirais que la densité normative des textes soumis au vote varie très fortement. Elle varie très fortement. Il s'avère néanmoins que, souvent parce qu'il s'agit de principes de niveau constitutionnel, dans les cas rares, mais néanmoins de plus en plus fréquents, où une initiative populaire est acceptée par le peuple et, les cantons, le travail de concrétisation ne soit pas un travail purement formel. Donc, pour toutes les initiatives populaires qui ont été acceptées récemment, le travail de concrétisation, et la concrétisation, ça veut dire de la précision normative, est un travail, je dirais, conséquent et conflictuel et controversé. Conflictuel et controversé tant au niveau de qui y participe. Par exemple, les initiants qui ont gagné une votation demandent à faire partie des groupes de travail, de l'administration, etc., qui préparent la concrétisation de l'initiative. Le gouvernement, le Parlement, qui était hostile à l'initiative, ils sont hostiles et ainsi de suite. Donc, je dirais que ce que l'on a observé, c'est qu'une fois qu'on a pris une décision, on entre dans les questions. Je ne connais pas de cas où on n'est pas entré dans des questions, pour des raisons diverses. Soit parce que la densité normative de l'initiative était faible et qu'il fallait la préciser, soit parce que l'initiative contrevient à des accords internationaux et des conventions, et ainsi de suite. La réflexion historique sur ce sujet. D'abord, il faut se dire qu'il y a que le système prévoit deux types d'initiatives. Il y en a un dont je ne vous ai pas parlé, parce que ce type d'initiative est très rarement utilisé. c'est l'initiative dite en termes généraux. Cette initiative est peut-être encore beaucoup plus générale et vague que certaines des initiatives que nous avons vues. Et deux choses par rapport à ce type d'initiative. Elle est très rarement utilisée parce qu'elle laisse évidemment encore plus de marge de manœuvre aux autorités pour la concrétiser. Donc les initiants se disent « ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine ». Et disons, il y a une opposition dans la doctrine à ce type d'initiative à cause de son côté relativement peu contraignant. Donc je dirais que la tendance a été plutôt de privilégier des initiatives qui sont suffisamment précises, tout en n'étant pas suffisamment dans la pratique, mais qui sont suffisamment précises de manière à ne pas laisser une marge de manœuvre jugée excessive au gouvernement et au Parlement en cas de concrétisation. La question du contrôle préventif. Alors, pendant longtemps, ça a été, je dirais, un tabou. Ça a été un tabou. Parce qu'évidemment, dans l'idée du contrôle préventif, il y a le soupçon de limitation par rapport aux possibilités qui sont offertes aux initiants. Et je dirais que le contrôle préventif s'accommode mal de la doctrine de la souveraineté populaire telle qu'on la connaît et qu'on l'absolutise en Suisse. Néanmoins, cette question du contrôle préventif est apparue avec force récemment. Je dirais, c'est très en lien avec l'internationalisation. C'est très en lien avec l'internationalisation parce que la Suisse a pris un certain nombre d'engagements internationaux. Et il s'avère que l'acceptation de certaines initiatives peut contrevenir à ces engagements internationaux. Alors, on a évoqué différents scénarios concernant ce contrôle préventif. C'est intéressant de voir que le scénario qui semblait être le scénario favorisé était celui d'une mise en garde soft. C'est-à-dire que dans le cas où le Parlement ou l'administration, ça n'avait pas été décidé, jugeait par exemple qu'une initiative populaire contrevenait à des accords internationaux, eh bien on demanderait de faire figurer cela dans le texte de l'initiative qui était distribué pour collecte de signatures. C'est intéressant de voir que même à cette forme soft, en tout cas pour l'instant, on a renoncé. Je dirais à la fois parce que même cette norme soft contrevient à l'absolutisation du principe de souveraineté populaire, mais aussi parce que on a peur des oppositions. On sait qu'il va y avoir des formations politiques comme l'Union démocratique du centre qui saisissent toute occasion possible pour dénoncer l'usurpation du pouvoir par la classe politique.
Mais in fine, ça veut bien dire qu'ensuite, si on dit « Ah oui, on a voté, mais on n'a pas fait attention », en fait, c'est contraire à tel et tel traité international.
Oui.
Donc, il y a une espèce d'hypocrisie tout de même. On fait figurer dans le texte en petit « On vous avertit que c'est contraire au droit international, mais vous pouvez voter pour. Une fois que vous avez voté pour, on vous dit « Ah, mais attention hein, !»
Oui.
C'est là, on le marque en gros.
Alors, d'abord, on ne le met pas, pour l'instant, on ne le met même pas en petit.
D'accord.
On ne le met même pas en petit.
C'est chuchoté à l'oreille.
Non, mais c'est plus que chuchoté à l'oreille, ouais. Puisque le vote est précédé d'une campagne référendaire. Mmh. Et bien entendu, les arguments des opposants, une partie des arguments des opposants à ce type d'initiative consiste à dire, attention, il y a problème quant au respect des engagements internationaux. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que le citoyen n'est pas informé. Alors, il existe bien entendu des citoyens qui votent sans avoir entendu cela, mais je crois que des arguments alarmistes de la part des opposants, les opposants ne se privent pas de diffuser leurs arguments alarmistes. Ça vaut par rapport à toute forme de changement. Donc je crois que la campagne référendaire donne lieu à de véritables débats, à des larges débats, certainement plus étendus que dans une démocratie de type purement représentative. Alors après, il peut effectivement arriver que celles et ceux qui votent ne soient pas sensibles à ce type d'argument. L'Union démocratique du centre dit par exemple, c'est simple, si l'initiative contrevient à des engagements internationaux, il faut dénoncer ces engagements internationaux. Donc c'est clair que ça limite la marge de manœuvre des autorités politiques qui doivent composer avec, mais je dirais que c'est un petit peu la règle du jeu. Je ne vois pas d'hypocrisie organisée.
D'accord, mais la question générale que cela pose, c'est qu'on peut dire que là où existe une forme de démocratie unanimiste, c'est une démocratie, la démocratie internationale des droits de l'homme. Et donc, dans tous les pays se trouvent confrontés maintenant à cette question fondamentale. C'est que la reconnaissance des grands accords sur les droits, effectivement, est une forme de limitation. Et que la reconnaissance de ces textes implique que l'on estime qu'il y a justement des limites à la souveraineté populaire et que ces limites sont les limites du pouvoir majoritaire contre les minorités. Ça, c'est quand même la grande révolution, on peut dire, des droits.
Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et bien entendu, d'un point de vue normatif, je ne contesterai pas cela. Ce que montrent ces votations en Suisse, c'est que l'adhésion à ces engagements consistant notamment au respect des droits humains est une adhésion largement, quasi unanime, je ne sais pas, mais largement majoritaire au sein des acteurs politiques. Elle est moins large au niveau de l'électorat. Je ne peux pas exclure que si l'on faisait voter sur ces questions d'autres électorats, on arriverait à des résultats analogues. Après, je dirais, il y a peut-être une spécificité dans le référentiel suisse quant à la souveraineté populaire, où l'on tend à considérer que toute forme de limitation du pouvoir du peuple tel qu'incarné dans des votes majoritaires est illégitime. Ce n'est pas par hasard que la Suisse n'a pas de cour constitutionnelle. Il existe un tribunal fédéral. Le tribunal fédéral peut examiner la constitutionnalité des lois cantonales par rapport à la constitution fédérale, mais le tribunal fédéral n'est pas habilité à examiner la constitutionnalité des lois fédérales parce que la doctrine dit que c'est au peuple de juger.
Il n'y a rien au-dessus de la souveraineté du peuple. Mais on peut dire que la Constitution, c'est une autre temporalité de la souveraineté du peuple. Il y a la souveraineté du peuple comme mémoire historique de cette volonté générale et la souveraineté du peuple dans la décision immédiate. C'est cela la réflexion historique sur le rôle des co-constitutionnels. C'est que les co-constitutionnels ne sont pas une limitation de la souveraineté du peuple, c'est une compréhension de la souveraineté du peuple pensée dans un autre régime de temporalité. Donc ça, c'est quand même en théorie politique un peu important.
Absolument. Cette conception n'est pas dominante en Suisse.
Mais c'est très intéressant de faire le lien entre la place qu'a le référendum en Suisse, et pas simplement pratiquement, mais je dirais dans la conception démocratique, et le fait qu'il n'y ait pas de cour constitutionnelle.
C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'il y a une ébauche de débat politique sur cette question en Suisse. Les milieux nationalistes, populistes sont farouchement opposés au développement du contrôle de constitutionnalité. La gauche y est plus favorable. Et ce débat traverse aussi les juristes. Les juristes de droit public, professeurs de droit public, sont aussi clivés.
Comme le clivage existe aussi aux États-Unis, d'ailleurs. Un point très important et intéressant de votre exposé a été d'opposer, en quelque sorte, les moments dans lesquels il y avait une forme d'unanimité parlementaire et un vote populaire qui était en décalage. Et au fond, vous avez suggéré deux choses. Une première chose, vous avez suggéré que ça n'est pas simplement l'opposition du peuple et des parlementaires, c'est que les leaders d'opinion sont de nature différente. Il y a des leaders d'opinion qui imposent à la fois des thèmes, des arguments, des séquences réflexives au moment du référendum, qui ne sont pas les leaders d'opinion qui imposent les thèmes, les arguments et les séquences réflexives parlementaires. Donc ça, c'est un point extrêmement important, je crois, de votre exposé. Mais il y a eu une forme d'expérimentation démocratique qui essaie de faire le lien entre les deux, c'est les jurys citoyens. Les jurys citoyens essaient d'ouvrir, en quelque sorte, à l'échelle d'un petit nombre de personnes, les conditions de l'information et de la délibération pour arriver, sinon à des décisions unanimes, mais en tout cas à des décisions très fortement majoritaires. Comment vous voyez ces... Et on peut dire que, si je regarde l'Europe aujourd'hui, je vois qu'il y a plus de mouvements de réflexion vers les jurys citoyens que vers les référendums d'initiative populaire. Comment vous évaluez ces deux façons, si je puis dire, de rationaliser la discussion publique dans sa distinction de la rationalisation proprement parlementaire?
Alors, peut-être une précision. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que les leaders d'opinion ne sont pas les mêmes lors du moment parlementaire et lors du moment référendaire. En partie, ce ne sont pas les mêmes. En partie, ce sont les mêmes qui changent d'avis.
Ah bah, ça, c'est autre chose. Ce ne sont pas vraiment les mêmes, alors. C'est vrai que ce cas de figure est très important. Mais
oui, c'est...
Là, c'est vraiment la fin de tout, si je puis dire. Parce qu'au moins, il y a une rationalisation. Si on comprend, si on regarde, par exemple, le débat sur le vote en 2005 sur la Constitution européenne, on voit bien comment il s'est constitué des formes d'influence qui ont été différentes de celles qui tenaient au parti. Là, au moins, c'était clair et net. Mais si c'est les mêmes qui changent leur casaque, effectivement, ça rend en tout cas le raisonnement intellectuel plus difficile.
Il n'y a pas que ce phénomène-là qui contribue à l'imprévisibilité injectée par la phase référendaire, mais ça existe. Sur les jurys citoyens, alors moi-même, je suis très favorable au développement des jurys citoyens. Je constate que, pour moi malheureusement, la pratique est très peu développée, pratiquement inexistante en Suisse. Et elle est probablement très peu développée en Suisse parce qu'on n'en voit pas le besoin de jurys citoyens, puisque par l'existence de campagnes référendaires, les citoyens sont de toute manière amenés à délibérer sur des enjeux politiques. Alors je disais que moi, je trouve très intéressante la notion de jury citoyen. C'est vrai qu'il y a une tendance dans ce sens en Europe. Ce n'est pas la seule. Je pense, regardez par exemple l'intégration européenne. Il y a eu beaucoup plus de référendums nationaux sur des révisions de traités, notamment, ces dernières années, que par le passé.
Ça, c'est l'essence historique des référendums. C'est,
oui,
c'est les matières constitutionnelles et les traités.
Oui, mais les citoyens des pays membres votaient beaucoup moins sur les révisions précédentes que sur les décisions, les révisions plus récentes. De même, au niveau des partis politiques, on observe le développement de formes de démocratie plus participative, par exemple la diffusion d'idées primaires. La diffusion d'idées primaires pour élire les candidats au poste de président, premier ministre, etc. C'est un phénomène assez nouveau. Pour revenir au jury citoyen, alors je pense que c'est un dispositif très intéressant. Le problème est celui du couplage du jury citoyen avec les sphères décisionnelles. C'est-à-dire que dans les jurys citoyens tels qu'on...
Et l'opinion publique.
Mais enfin, on peut considérer que le jury citoyen représente une sorte de microcosme de l'opinion publique qui, grâce à la délibération, arrive à être mieux informé. Par contre, le couplage me semble beaucoup plus... Et on peut penser qu'avec une médiatisation, notamment des délibérations du jury citoyen, ça permet d'atteindre l'opinion publique plus largement. La question, par contre, centrale, c'est celle de du couplage, de l'impact des délibérations du jury citoyen sur le travail des décideurs politiques. Dans la quasi-totalité des cas, il est très faible, c'est-à-dire tout au plus les décideurs prennent connaissance des délibérations du jury citoyen. Je ne pense pas que cela ait une influence importante sur la prise de décision. Je trouverais intéressant qu'en Suisse, où on connaît de toute manière des procédures de démocratie directe, on développe davantage la pratique du jury citoyen parce que ça permettrait une meilleure information du public qui en Suisse est amené à voter.
Merci. Une dernière question pour conclure, si je puis dire. Il y a deux grands actes démocratiques d'expression, c'est l'élection et la votation. Le terme de votation, en tout cas en langue française, n'est pas spécifiquement utilisé en Suisse. C'est donc bien montré qu'il y a deux dimensions très distinctes de l'expression, l'élection et la votation. Comment proposeriez-vous de construire la distinction et peut-être la hiérarchie démocratique, s'il y en a une, entre ces deux formes?
Vous me prenez un petit peu de cours par rapport à des propositions.
C'est faire une petite conclusion.
Oui, l'expérience suisse tend à montrer que le couplage entre les deux formes n'est pas facile. Il est clair, par exemple, qu'en Suisse, sur le plan fédéral notamment, les citoyens, s'ils le veulent bien, ont une influence directe, peuvent avoir une influence directe sur le contenu des décisions politiques qui les affectent. Cela va de pair avec une influence limitée sur la composition des gouvernants à travers le mécanisme de l'élection. Pourquoi ? Parce que les citoyens en Suisse élisent certes le Parlement, mais le gouvernement fédéral est élu par le Parlement. Pour l'essentiel, comme dans d'autres démocraties dans lesquelles il y a des coalitions de partis au pouvoir, à travers une série de marchandages, de calculs politiques sur lesquels le citoyen n'a aucun impact. Pour vous donner un exemple, ça a changé récemment, mais la composition du gouvernement fédéral suisse est resté stable de 1959 à 2003 en fonction d'un accord entre les principaux partis. Les citoyens, en élisant des représentants, savaient qu'eux avaient leur propre agenda quant à la constitution du gouvernement. Donc, ils se dessaisissaient, au fond, de cette prérogative. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a eu cette initiative, elle est récurrente, hein. Il y a eu plusieurs initiatives visant à l'élection du Conseil fédéral par le peuple. Donc, En Suisse, on observe, je dirais, une maximisation de l'influence à travers la votation et une influence réduite à travers l'élection. Ça me fait dire que le couplage n'est peut-être pas très facile.
Merci. Écoutez, c'était tout à fait passionnant.